on est petit, on y creuse des trous à la recherche de bestioles et de trésors, les ongles crasseux et le sourire heureux. Il nous arrive même d'en manger, le visage tout barbouillé de noir. Puis, 15 ans plus tard, les trésors nous intéressent moins et les bestioles... Mais où sont-elles les bestioles? Abeilles, papillons, hérissons? Alors on colle notre oreille à la surface de la terre et elle nous dit « Je suis fragile, protège-moi ».
Le monde est à nous. Cerise Maréchaux, Alice Milo.
Enfants de la Terre, c'est notre thème aujourd'hui dans Le Monde est à nous. Bonjour à tous, bonjour Alice.
Salut Cerise.
Tout l'été, chaque dimanche, deux jeunes entre 15 et 25 ans nous embarquent dans le tourbillon de leur vie et racontent leurs rêves, leurs préoccupations et leurs convictions. Aujourd'hui, c'est Théo et Zoé qui nous parlent de leur lien avec la Terre et la nature, autant dire l'avenir de l'humanité. Bienvenue à tous. Elle a 17 ans et a grandi quasi toute sa vie à La Courneuve en Seine-Saint-Denis. Zoé, tu es notre invitée du jour. Bonjour.
Bonjour.
Fille du bitume, cette grande métisse aux cheveux bleus qui touche parfois au mannequinat a pourtant choisi de s'inscrire en lycée agricole. Son but, s'appuyer sur l'agroécologie pour travailler à un monde plus durable et plus équitable. Souris des villes, souris des champs, bientôt un pied entre l'Europe et l'Afrique. Le monde est à nous, ce n'est pas un, mais deux jeunes qui se racontent et se rencontrent par la magie de la radio Cerise.
Justement, voici Théo, 18 ans, en terminale au lycée agricole, lui aussi est passionné d'élevage de vaches. En fait, Théo vient juste de passer son bac, donc il est en vacances, mais à la moindre minute de temps libre, il aime donner un coup de main à Hervé et Jean-Michel, deux frères éleveurs et céréaliers en lisière de Niort, département des Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France. Et c'est aussi un cadre de tournage idéal pour Théo qui a créé sa chaîne YouTube sur le métier d'éleveur. Là, il reste un peu de temps avant la traite de 16h30, donc Théo me fait visiter cette petite exploitation. Il fait très chaud, on se met à l'ombre avec les vaches.
Donc on peut descendre au bâtiment où sont les vaches. Donc là, elles sont rentrées. Elles rentrent à 14h. Donc là, en été, il fait très chaud. On n'a pas besoin de les rentrer. En fait, elles rentrent toutes seules. Il y a une hiérarchie qui s'établit entre les vaches. Donc chacune a sa logette. Et puis c'est leur couchage, en fait.
Alors... J'observe cette vache-là, elle passe sous une espèce de brosse rotative qui a l'air de lui masser l'arrière-train.
Elles adorent. Et d'ailleurs, c'était Huguette qui était sous la brosse.
Huguette.
Voilà.
Elles ont toutes des prénoms ?
Oui, oui. Alors moi, je les connais pas tous, encore par cœur, mais...
Mais t'as reconnu Huguette ?
Oui, voilà.
Qui était en train de se faire masser les fesses.
C'est ça.
Et alors, comment tu as reconnu Huguette ?
Elle, parce que quand j'avais fait la vidéo pour le vélage, c'était une deuxième vache qui se préparait à véler. Et puis elle avait eu une césarienne parce que les veaux s'étaient entremêlés entre eux. Donc voilà, elle a eu sa petite histoire. Et puis du coup maintenant, les noms, voilà, je connais le nom. Maintenant, elle est en pleine forme.
Mais on est chez qui là, Théo ?
Là, on est au GAEC du Nouro, donc c'est un GAEC de frères.
Le GAEC du Nouro.
Voilà, en fait, c'est les frères Pouvreau, donc ils sont deux, et puis ça fait longtemps qu'ils ont toujours eu en fait, des vaches normandes.
Donc c'est un GAEC, c'est un sigle qui veut dire quoi ?
Groupement agricole d'exploitation en commun. En théorie, c'est deux exploitations qui se réunissent en une, en fait.
Et qu'est-ce que tu fais ici, toi ?
Alors moi, en fait, j'étais en stage en seconde, ici. Ben, en fait, voilà, j'adore vraiment la race, j'adore le troupeau. Et puis, naturellement aussi, il y a des liens qui sont créés avec les éleveurs. Donc, dès que j'ai un peu de temps libre, je viens ici pour le plaisir, quoi, en fait.
Donc là, tu as bientôt fini le lycée agricole ?
Oui, voilà, là, je suis en train de finir les épreuves pour le bac. Puis après, à partir de l'an prochain, je compte faire un BTS AXE, donc c'est compte à gestion en apprentissage. Donc là, c'est une vache qui s'apprête à mettre bas. Pour l'instant, elle est au repos.
D'ailleurs, j'ai vu dans une des vidéos YouTube que tu réalises, on peut apprendre assez facilement à identifier une vache qui s'apprête à véler. Donc, quels sont ces indices ? Qu'est-ce qu'il faudrait la repérer ou observer de plus près sur cette vache ?
Déjà, le premier, c'est la mamelle. Après, bien sûr, on voit la vulve. Si elle commence à se dilater, c'est que ça arrive. S'il y a du mucus aussi qui coule, c'est des signes. Et puis aussi, au niveau de l'attache de la queue, il y a une membrane. Enfin, c'est un muscle qui va se détendre, se distendre pour permettre l'ouverture pour le passage du veau. Enfin, c'est avec l'expérience, quoi. Quand on aime, on apprend vite et puis voilà.
Ils sont tout petits, ces veaux, là, à côté de nous.
Oui, bah, étant donné que c'est des jumeaux, ils sont plus petits que s'il y avait eu qu'un seul veau.
Donc ce sont les jumeaux du guet ?
Voilà, c'est ça.
Ils sont bien habitués.
Et ils nous voient tous les jours pour les petites caresses, quand on donne le lait, etc. Donc eux, ils sont habitués à voir du monde.
Toi, tes parents, ils étaient où ils sont éleveurs ?
Non, absolument pas. Ils travaillent dans les assurances et puis la formation auto-école. Donc vraiment aucun rapport. C'est vraiment moi qui fais toutes les démarches pour venir pour travailler dans ce milieu-là. Donc au début, forcément, ils étaient sceptiques parce que ils entendaient, soit avec les médias ou à côté, que voilà, c'était un métier très difficile, ils n'entendaient que les contraintes. Puis bon, certes, il y a des contraintes qui sont plutôt lourdes, mais derrière, c'est vraiment une passion qui est extraordinaire. Et puis...
En tout cas, tu en parles avec un large sourire sur ton visage.
Ah bah oui, enfin, je m'en lasse pas.
Comment est-ce qu'ils ont réagi ?
Ben, au début, ils n'étaient pas trop d'accord. Parce que du coup, c'était un métier dur, qui rapportait pas, qui ne comptait pas les heures, que machin. Tu sais, tu vas devoir travailler tout le temps. Puis après, voilà, j'ai su leur donner les arguments, que ça me plaisait. Puis après, ils m'ont dit pourquoi pas, après tout. Puis ils ont vu que mes notes en fait avaient augmenté par rapport à mes notes que j'avais au collège. Puis que pendant le stage, ça se passait extrêmement bien. Mais ils se sont dit, bon, on a bien fait de te laisser faire ce qui te plaisait. Voilà. Dans la vie, c'est quand même essentiel de faire quelque chose qui te plaît.
Toi, tu, comme Théo, tu n'es pas non plus du milieu agricole. Hein, Zoé, tu as grandi à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, en proche banlieue parisienne, loin des champs, donc. Ouais. Comment t'es venue cette envie de t'inscrire dans un lycée agricole ? Comment c'est possible quand on a grandi au milieu des immeubles ?
Ça s'est fait plus ou moins par hasard, parce que en troisième, j'étais censée faire un stage pour mon orientation. J'avais pas trouvé de stage qui me plaisait, et mes grands-parents ont une maison à la campagne. Je me suis retrouvée à faire un stage dans une ferme à côté de chez mes grands-parents.
Et parce que t'avais rien d'autre.
Ouais, parce que j'avais rien d'autre, et puis bon, c'était l'occasion d'aller voir ma famille, d'aller à la campagne, donc c'est ce qui m'a fait découvrir plus ou moins le monde agricole, en fait.
Et qu'est-ce qui t'a plu alors à ce moment-là ? C'était la première rencontre, qu'est-ce qui t'a plu ?
Je pense que c'était le contact avec les bêtes, le fait qu'il y ait un bien-être qui soit présent partout. Ouais, d'être dehors, en fait, de pas être enfermé, de pouvoir bouger, de pas être dépendant d'autre chose que soi-même, quoi.
C'était quoi comme exploitation ?
C'est des vaches laitières en biologique.
C'est pour ça donc que tu parles de bien-être animal, parce que c'est pas le cas dans toutes les exploitations en France. Hein. Et comment tes parents ont réagi alors quand tu leur as annoncé que tu voulais aller en lycée agricole ?
Mon père, il était plutôt pour, et ma mère, pas trop, non. Elle était pas super enthousiaste à l'idée que je parte faire un bac agricole.
Toi, tes parents, ils sont pas du milieu agricole ?
Non, pas du tout.
Qu'est-ce qu'ils font ?
Mon père, il est designer, et ma mère, elle est assistante commerciale. Pour elle, c'était plus faire de longues études, aller à la fac... Et aujourd'hui, sincèrement, elle sait que je suis contente avec ce que je fais, donc elle est heureuse pour moi, quoi.
Just breathe.
Breathe, respire, télépop musique sur RFI, c'est le choix musical de Zoé, une des deux enfants de la terre avec nous aujourd'hui dans Le Monde est à nous, où l'on parle du monde agricole et du développement durable, avec donc Zoé, 17 ans, et Théo, 18 ans. Théo, apprenti éleveur dans les Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France, qui a la passion contagieuse et le sens de la com. Depuis un an, il poste quasi chaque semaine sur YouTube des tutos vidéo où il met en scène son futur métier, des vaches, une caméra GoPro, ça tourne.
Alors là, je compte tourner une vidéo avec les génisses pour voir leur évolution avec le dressage.
Tu me mets où pour pas gêner, pour pas être dans le cadre.
Vous pouvez me mettre là.
Ouais.
Je vais me mettre comme ça.
Mais tu improvises en fait ?
Oui, oui,
c'est essentiellement de l'improvisation. Ouais.
D'accord. Donc en fait, là, pour décrire la scène, tu es debout, planté au milieu de. Enfin, dans l'allée centrale du bâtiment, de part et d'autre des veaux et des génisses. Tu tends la GoPro face à toi. Et oui. Tu te lances.
Donc là, je vais faire mon intro où je vais présenter ce que je vais faire dans la vidéo.
Ok, bon allez, je regarde.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Théo. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour voir comment les génisses évoluent avec le dressage. Donc je vous retrouve, je vous emmène avec les génisses.
Donc ça, c'est l'intro.
Voilà.
Et là, tu fais cut entre...
Oui, je vais faire... chez moi, je vais faire le montage.
D'accord. Donc, s'il y a des moments où je te pose une question, tu pourras me couper au montage.
Oui, oui.
D'accord. Donc, Théo Joyeux, tu as créé une chaîne sur YouTube qui s'appelle Théo Futur Éleveur.
Voilà. Bon, en fait, j'aime beaucoup partager mes passions. Enfin, là, notamment pour l'élevage. Un peu pour rassurer, en fait. Enfin, ce métier est beaucoup critiqué. Voilà, je veux vraiment montrer ce qu'on fait, la relation avec nos animaux, qu'on ne s'en sert pas que pour produire. J'aime bien utiliser le terme « on travaille ensemble ». C'est-à-dire que nous, on les rend heureux, on les met voilà, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Puis eux, après, ils vont pouvoir nous permettre d'avoir un salaire. En fait, j'ai vu aussi d'autres agri-youtubeurs tels que...
Agri-youtubeurs.
Voilà. Tels que Thierry Agriculteur d'aujourd'hui, la chaîne agricole avec David, et puis Gilles Agriculteur dans le Loiret. Donc eux, c'est plutôt des céréaliers.
Qui sont un peu plus âgés que toi.
Voilà. Et puis qu'il n'y ait personne qui explique réellement l'élevage, ça m'a vraiment donné une source de motivation. Et aussi pour montrer que c'est pas parce qu'on n'est pas issu du milieu agricole qu'on ne peut pas forcément entrer dedans. Mais voilà, quand on aime, voilà, on peut faire ce qu'on veut.
Mais il y a aussi un aspect très pédagogique dans tes vidéos.
Oui, bah oui. À la fois, par exemple, pour l'hélicole.
Alors l'hélicole, c'est une sorte de bride qu'on met sur la tête des vaches pour pouvoir les tenir en main.
J'avais fait une vidéo sur l'hélicole. Il y a des collègues du lycée qui m'ont dit « Tiens, j'ai regardé la vidéo, ça m'a aidé ». Puis même des commentaires, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Il y a une communauté qui s'installe, qui est très active. Donc ça, je suis vraiment content de ça.
Ce qui m'a semblé important, c'est ton effort pour le rendre accessible, compréhensible. Par exemple, quand un terme a besoin d'une définition, tu mets des mots-clés avec des hashtags.
Oui, voilà, le but c'est aussi qu'il soit compris. Enfin, je vois quand j'en parle à mes parents ou à de la famille, que j'utilise mes termes, ils font des grands yeux, ils connaissent pas. Voilà, ça permet de leur expliquer. De temps en temps, je fais regarder les vidéos justement à mes parents. Et s'ils comprennent l'intégralité de la vidéo, c'est que j'ai réussi ma vidéo. Là, je vais les sortir.
Viens, choupette, viens.
Le dressage porte ses fruits.
Donc là, maintenant, je vais les attacher pour mettre... Pour mettre ma GoPro et puis pour montrer un peu comment elle marche.
Lève la tête. Allez.
À ton avis, qu'est-ce que ça a changé pour les agriculteurs de pouvoir faire exister l'agriculture sur les réseaux sociaux comme ça, de manière originale?
J'entendais souvent dire que les gens achetaient des aliments, mais ne savaient pas comment c'était fait, d'où ça venait. Ça permet aussi de répondre un peu, entre guillemets, à la traçabilité. que nous, agriculteurs, on essaye de plus en plus faire en sorte qu'elle soit visible. Donc c'est aussi un peu pour montrer le produit français, quoi.
Donc là, Théo fait marcher ses deux petites génisses. Elles sont très calmes, elles marchent bien parallèles l'une de l'autre. Dans un plan large, il a posé sa GoPro sur un muret. Il y a du vent, j'espère qu'elle ne va pas tomber.
Il n'y a plus grand chose à faire en fait. Je vais les rafraîchir. C'est plutôt office de récompense. Comme il fait relativement chaud, voilà, elles vont avoir le droit d'un petit rafraîchissement.
C'est Théo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Miss Bas. Donc, je vous souhaite un très bon visionnage.
Donc là, il est 21h30. Donc le veau est né il y a une vingtaine de minutes. Éventuellement, on peut sécher le veau avec de la paille pour pas qu'il ait trop froid. Et puis, il faut bien vérifier que le veau tète dans les 2 heures qui suivent.
C'était un extrait d'une des vidéos de Théo, 18 ans, sur sa chaîne Théo Futur Éleveur, un soir de vélage dans une exploitation des Deux-Sèvres. Toi, Zoé, tu es aussi dans un lycée agricole, celui de La Bretonnière, en Seine-et-Marne. Qu'est-ce que tu en penses de ces vidéos, de ces tutos vidéo pédagogiques d'agri-youtubeurs? Est-ce que c'est une bonne idée?
Ouais, ça rend compte vraiment de ce que c'est que le métier d'éleveur. Il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose de bien de montrer la réalité du métier, quoi.
Est-ce que par exemple ça pourrait t'aider vis-à-vis de tes copains qui ne comprennent pas ton choix?
Ouais, bah oui, c'est sûr que si ça pouvait les aider à comprendre, ça serait cool. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de pourquoi je suis là-bas et qu'est-ce que j'y fais vraiment en fait.
Qu'est-ce qu'ils te disent?
Bah Zoé, t'étais dans un lycée à Paris et là tu deviens une fermière, quoi.
Qu'est-ce que tu leur réponds alors?
Bah, je leur dis juste que j'ai plus de chances d'avoir un métier qu'eux, quoi.
En tout cas, toi, au contraire de Théo, tu as vite réalisé que tu ne voulais pas pour autant devenir agricultrice, hein, mais que tu veux travailler dans le secteur agricole. Pourquoi tu t'es détournée de ce métier?
Je pense, d'une part, parce que, à force d'avoir fait des stages, je me suis rendu compte que c'est cool en été. En hiver, c'est autre chose. Et les horaires sont compliqués.
Après, on travaille facilement 12 heures par jour. Hein.
Oh, largement. Mmh.
C'est-à-dire que toi, au début, tu étais inscrite dans la même filière que Théo, donc CGEA, conduite et gestion d'exploitation agricole. Et puis, après un trimestre, je crois, tu as changé pour une autre filière qui s'appelle STAV, mmh. Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Pourquoi ce choix et en quoi c'est différent? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette nouvelle filière?
Parce qu'en fait, j'apprenais des choses qui m'intéressaient. On a de l'agronomie assez poussée en fait, de la zootechnie aussi assez poussée.
De la zootechnie?
Ouais.
Ça veut dire quoi?
C'est plus ou moins l'étude en fait du métabolisme au bien-être animal, en passant par de la philo. Enfin, c'est vachement approfondi et il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus.
Donc c'est plus centré sur vraiment l'animal en tant qu'être vivant.
Dans cette matière, oui. Après, en agronomie, on a toute l'étude de tout ce qui est les plantes, du sol, du climat. Ce qui est particulier dans cette filière-là, c'est que on est formé pour pouvoir faire un diagnostic, en fait. Pourquoi telle plante pousse ici? Pourquoi cette culture ne marche pas?
En tout cas, t'as senti que c'était une filière qui était plus engagée vers une agriculture plus durable, contrairement aux autres filières qui sont plus dirigées vers l'agriculture conventionnelle?
C'est ça, ouais. On a vraiment la réflexion derrière de savoir qu'est-ce qu'il y a le mieux, en fait, de voir sur le long terme et de pas forcément se baser sur qu'est-ce qu'on va produire et comment faire pour produire tant de quantité. On a plus une façon de voir les choses qui serait de voir comment, après nous, on peut continuer dans une agriculture durable, en fait.
Restez avec nous, on continue de parler du futur de l'agriculture et de l'agriculture du futur avec Théo, 18 ans, et Zoé, 17 ans. Le Monde est à nous revient juste après Flash, dans 3 petites minutes.
Le Monde est à nous.
Puisqu'on en est aux confidences de jeunesse, je vais t'en faire une de confidence. J'écoute.
Le Monde est à nous. Cerise Maréchaux, Alice Milot.
Le Monde C'est à nous, le magazine de l'été qui donne la parole aux jeunes. Et même si ça fait longtemps que vous n'avez plus 20 ans, restez avec nous, cette émission est aussi la vôtre. Enfants de la terre, ces jeunes qui font le choix d'une agriculture plus humaine. C'est notre sujet aujourd'hui avec Zoé, brunette élancée de 17 ans. Elle a grandi en ville, en Seine-Saint-Denis, mais en septembre, elle fera sa rentrée en terminale, en lycée agricole. Son objectif, parcourir le monde et contribuer à le rendre meilleur. Théo, lui, s'imagine plutôt rester en France, mais heureux de pratiquer sa passion, l'élevage. Ses parents ne sont pas du milieu agricole, mais il les a convaincus que c'était sa source d'équilibre. D'ailleurs, il apprend très vite Théo, tout juste 18 ans, mais déjà très à l'aise avec ses bêtes, des jeunes génisses qu'il vient de dresser devant la caméra, puisqu'il crée des vidéos pour sa chaîne YouTube, et sous l'œil bienveillant de Hervé, l'un des deux frères exploitants chez qui Théo apprend son futur métier.
Donc là, vraiment, je suis satisfait du travail que j'ai fait parce que on voit, elle bouge pas de trop.
Elles étaient très calmes.
Ouais, donc ça veut dire que j'ai bien travaillé. Ça a bien fonctionné. Donc voilà. Là, je vais la refaire marcher un petit peu.
Ouais.
Le temps qu'elle sèche et puis après, je vais les rentrer.
Après, c'est l'heure de la traite.
C'est quand même beau ça. Ils sont toutes belles, toutes propres. Noémie et Nevada. Enfin là, il les a dressées toutes les deux tout seul. Il n'a pas eu besoin de nous, il nous a demandé, on a dit oui et puis. Puis là, c'est super, hein, elles sont rigolotes ces deux là. Ah bah oui, bah regardez. Elle le suit partout, oui. Il en fait ce qu'il veut.
Qu'est-ce que vous voyez en Théo qui font et feront de lui un bon éleveur?
Bah, il est très calme. Déjà, c'est bien. Avec les animaux, il faut être calme, il faut être patient, il ne faut pas brusquer, il ne faut pas parler fort, il faut être tranquille. Et Théo, il a toutes ses qualités. Il faut être tranquille. Après, ça va peut-être être dur, parce que bon, comme il n'a pas de famille dans le milieu, il faut trouver une ferme à reprendre. En vache, il y en aura peut-être, parce que le lait, ça va mal, la viande, ça va mal. Donc, il y en aura à reprendre, mais à quel prix et puis quel avenir, surtout. Parce que le litre de lait, ça vaut rien, c'est pas encourageant pour en faire. Et les céréales, ben, tout le monde se veut les terres, quoi. Donc il n'y a pas de place pour installer un jeune. Ça va être compliqué. Après, rentrer dans un GAEC, peut-être déjà installé, mais.
Un GAEC, c'est comme chez vous ici, c'est un groupement.
C'est un groupement de plusieurs exploitants, ouais, en commun. Après, il faut s'entendre avec les associés. Bon, y a beaucoup de choses à régler. En Bretagne, il y a plein de fermes qui se libèrent, mais est-ce qu'il aura envie d'aller en Bretagne? Et puis. Puis je vous dis, l'argent, c'est ce qui va coincer. Hein. Déjà que la banque a du mal à nous suivre, nous, installés depuis longtemps. Donc quelqu'un qui s'installe, s'il n'a pas d'apport, je ne sais pas ce qu'il choisira.
Et maintenant, je vais aller repousser l'alimentation pour qu'ils puissent manger dès qu'ils reviennent.
Ah.
Ça m'embêterait de ne pas pouvoir travailler là-dedans.
Qu'est-ce que tu ressentirais?
Bah, la déception, voilà, je suis dégoûté. Être tous les jours avec les animaux, les fermes, parler avec les exploitants et tout, c'est ce qui me rend heureux. Soit je resterai salarié, peut-être dans une exploitation, et puis au pire des cas, je travaillerai au service de remplacement. C'est en gros les agriculteurs quand ils préféraient par exemple prendre un peu de vacances ou même rien qu'un week-end ou une journée. Ou par exemple quand il y a des arrêts maladie, ils peuvent faire appel au service de remplacement.
Il faudrait rassembler combien de capital pour accéder à du foncier, à de la terre?
Je sais pas, je peux vous dire exactement. Peut-être pas loin de 300 000 euros, enfin, ça peut monter vite fait à ce chiffre-là. Donc
oui.
Ça fait réfléchir.
Et au fond de toi, dans ton cœur, dans tes tripes, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu penses que tu vas y arriver?
Je ferai tout pour, en tout cas. Je ferai tout pour. Ça dépendra vraiment de la demande, en fait. Parce que si, par exemple, il y a beaucoup de demandes, admettons, en bio, par exemple, eh ben, ça peut être une solution. Enfin, ça dépend vraiment de la demande du consommateur. Il faudra voir. La vente directe, ça m'intéresse beaucoup parce que ça permet d'avoir un lien direct entre client et l'éleveur. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le pâturage aussi. En pâture, du coup, à marché, elles vont dépenser beaucoup plus d'énergie, qui du coup ne va pas servir à produire du lait en fait. Et moi, si me plaît, ouais, c'est pas viser une production énorme, mais plutôt viser une qualité en fait.
C'est une agriculture et un élevage plus adapté au 21e siècle et aux enjeux d'aujourd'hui, demain.
Oui, c'est aussi. On voit par exemple notamment avec la PAC, c'est
la politique agricole commune.
Voilà. Elle s'oriente de plus en plus vers une agriculture durable, respectueuse de l'environnement. Donc après, je pense qu'il y aura d'ici quelques années, il y aura un grand changement au niveau de la façon de faire dans l'agriculture. J'ai encore plusieurs années devant moi pour voir et me faire un choix.
Théo, 18 ans, il s'investit beaucoup dans cette petite exploitation laitière et céréalière dans les Deux-Sèvres, modeste mais qui ne produit pas en bio. Mais on entend quand même le désir de Théo de s'inscrire dans une agriculture durable, respectueuse de l'environnement. Toi, Zoé, tu as 17 ans, tu es aussi en lycée agricole et tu partages cette conviction que l'agriculture durable est la seule voie d'avenir pour respecter à la fois l'environnement et les hommes. Comment est née cette prise de conscience ?
Je pense que ça vient de mon père, qui travaille donc dans le design, mais qui a pas mal de projets sur tout ce qui est le développement durable. Dans mes souvenirs, le plus vieux projet sur lequel il avait travaillé, qui m'avait marqué, c'était quelque chose pour retenir l'eau de pluie, un mécanisme pour la transformer en eau potable, quelque chose comme ça. Et donc ça a toujours été quelque chose qui était présent autour de moi en fait.
La préoccupation écologique.
Ouais, c'est ça en fait. Enfin, j'ai jamais été une enfant qui jette mes papiers par terre ou quoi que ce soit. Enfin, c'est tout bête, mais ça commence dès le début en fait. C'est quelque chose qui s'apprend et qui est dans l'éducation.
Et selon toi, quand tu as commencé ta formation dans ton lycée agricole, tu as le sentiment aujourd'hui que l'agriculture conventionnelle est dans une impasse ?
Je pense qu'on arrive à un point où on se rend compte de pas mal de choses. Ouais, on prend conscience qu'il y a d'autres façons de travailler. Et que si on veut continuer d'avoir des terres assez fertiles, d'avoir des rendements qui sont, pas forcément élevés, mais qui sont réguliers et de bonne qualité, oui.
Et respectueux de l'environnement.
Tout à fait. Et il faut faire attention à ce qu'on met sur nos sols, il faut faire attention à comment on s'en occupe. Il y a plein de prises de conscience, en fait.
Parce que justement, là, dans ta filière, donc, tu te diriges plutôt vers de l'agroécologie. Qu'est-ce que tu apprends concrètement ? Quelles sont les pratiques que vous apprenez dans cette filière ?
Il y a l'agriculture raisonnée, qui n'est pas de l'agriculture biologique, mais qui est déjà un bon pas vers l'agriculture biologique.
Tu peux nous expliquer ce que c'est ?
C'est l'utilisation de produits, donc de pesticides, d'antibiotiques pour les bêtes. Pas forcément de façon préventive, mais
pas systématiquement.
Voilà, c'est on l'utilise quand on n'a pas d'autre choix en fait.
C'est-à-dire qu'on va pas donner un antibiotique par exemple à un cochon systématiquement, mais seulement s'il est malade.
Ouais, et même si on peut le guérir autrement, on le fait. Ensuite. Faut que je ressorte mes cours.
Cette filière, donc il y a l'agriculture raisonnée et de manière un peu plus poussée, il y a ce qu'on appelle l'agroécologie ou permaculture.
Oui, voilà, la permaculture.
Vous appelez ça permaculture dans la filière. C'est-à-dire un principe de complémentarité où sur une même terre, on va cultiver intelligemment des plantes qui, biologiquement, en fait, s'entendent bien parce qu'elles s'apportent des nutriments ou alors elles peuvent même protéger l'autre d'un insecte, d'un nuisible.
C'est ça. Et puis même, juste déjà, le fait d'avoir, par exemple, un arbre au-dessus de certains plants, ça va permettre la fertilité du sol avec des feuilles. C'est tout bête, en fait. Après, bien sûr, il y a quand c'est plus poussé, avec on associe plusieurs plantes dans une même parcelle pour apporter le bon quotient d'azote ou des choses comme ça. Enfin, c'est tout. En fait, c'est un équilibre qui se trouve. Et c'est tout bête, en fait. C'est sous notre nez et qu'on s'en rend pas forcément compte, alors que ça a toujours été comme ça avant qu'on trouve d'autres manières d'apporter des apports, en fait. Mais sinon, ça a toujours été comme ça. Hein.
Est-ce que avant d'arriver dans ce lycée agricole et donc dans cette filière qui est sensible à l'écologie, est-ce que toi, Zoé, tu étais déjà engagée ou tu avais déjà une sensibilité au-delà de l'écologie, mais pour des causes humaines, humanitaires ?
Oui, bien sûr. Enfin, quand on vit particulièrement dans la capitale, on se rend compte de pas mal de choses. Le nombre de sans-abri qui vivent dans la rue et qu'on croise tous les jours. Le fait de voir des réfugiés qui se retrouvent aussi sans abri, le fait de voir la misère et que ça devienne quelque chose d'habituel pour certaines personnes et qui choque même plus en fait. moi, voir des enfants, des familles entières sur un matelas dans la rue, enfin, c'est pas humain, quoi.
On voyait des trucs complètement fous, quoi. Des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses.
Comme ces crevettes danoises qui vont se faire nettoyer au Maroc pour revenir au Danemark.
Ils ont essayé de faire des œufs carrés, ils y sont pas arrivés.
Dans les années 70, on n'avait pas le droit de dire qu'on cultivait bio parce que c'était, paraît-il, de la concurrence déloyale.
On parle d'environnement, mais jamais du fait que le premier environnement des humains, c'est le corps maternel.
L'économie au sens moderne, c'est un truc de mec.
Pour eux, toute leur virilité s'exprime. Plus j'ai un gros tracteur, plus je défonce la terre, plus je la viole profondément, plus je suis un mec.
Alors que faire ?
C'était un extrait du film Solution locale pour un désordre global de Colin Serrault qui date de 2010. Donc un film qui a vraiment fait écho en toi, Zoé. Qu'est-ce qui t'a interpellée dans ce film ?
Le fait qu'il y a tellement de solutions en fait. Et le fait qu'il y a tellement de problèmes aussi. Et que, en fin de compte, si on réfléchit bien, on trouve des solutions à tous ces problèmes-là.
Mais parce que dans ce film, effectivement, on découvre les questions telles que l'usure des sols, les pesticides, le surendettement des agriculteurs, l'exode rural, la désertification, hein, pour ne citer que ces problématiques globales. Toi, tu as 17 ans, à l'échelle de ton jeune âge, quelle est la cause à laquelle tu te sens le plus sensible ?
Je pense que c'est la misère des agriculteurs, particulièrement en Inde. Parce que je trouve qu'ils se sont fait avoir en fait, et
c'est-à-dire
je trouve par rapport à tout ce qui est
OGM,
ouais, les OGM, et enfin je trouve que c'est presque vendre la mort en fait, de vendre ces OGM. Et
alors, pour expliquer, en fait, hein, ce sont des grosses sociétés qui leur ont vendu des semences, et ensuite ils se sont retrouvés piégés à être obligés de cultiver encore et toujours ces mêmes semences qui sont devenues plus chères, qui ont rendu leur sol infertile, et qui voilà, quelque part provoquent ce fameux surendettement dont on parle.
C'est ça, et enfin je pense que c'est vraiment dommage de devoir en arriver au point que l'agriculture finisse par être dirigée par des grosses entreprises comme ça. Enfin, je veux dire, avant, c'était de l'agriculture vivrière. On se posait pas la question de devoir payer les graines qu'on plantait, de devoir avoir des sols, de les fertiliser, parce que les sols, ils se fertilisaient tout seuls avec tout l'environnement qui l'entourait. Enfin, c'est que du commerce. Enfin, c'est une agriculture commerciale, alors que c'était une agriculture, qui était vivrière et qui se posait pas la question qu'on se pose aujourd'hui de tous ces OGM.
Makes my body dance for ya. Ooh, makes my body dance for ya.
Makeba de Jane sur RFI dans Le Monde est à nous, le magazine de l'été qui donne la parole aux jeunes. Aujourd'hui, on parle d'agriculture, l'avenir de l'homme. Toi, Zoé, aujourd'hui, tu es encore en lycée agricole, mais tu t'intéresses notamment au continent africain. D'ailleurs, tu nous as confié que tu voulais plus tard travailler dans le développement, dans le secteur agricole et pourquoi pas en Afrique. D'où vient cet intérêt ?
Ça vient d'un documentaire que j'ai regardé à mon lycée sur des projets qu'avaient avait mis en place des lycées agricoles sur comment rendre l'agriculture et la culture du cacao vivable pour les gens qui le cultivaient en Afrique. J'ai trouvé ça vachement intéressant d'aider en fait à plus tard vivre mieux sans que les gens soient dépendants de l'aide qu'on apporte, quoi.
Et comment ils s'y prenaient pour rendre cette culture du cacao plus vivable?
En fait, ils faisaient en sorte que toute la transformation se faisait sur place, ce qui fait que le circuit long, qui était emprunté normalement pour vendre ce cacao, est devenu un circuit court, géré par les agriculteurs eux-mêmes, en fait.
Donc il n'y avait pas de perte des coûts, en fait, qui auraient été confisqués par des intermédiaires européens, par exemple.
C'est ça, en fait. C'est juste
tout l'argent leur revenait directement aux producteurs qui devenaient des transformateurs.
C'est ça. Ils avaient, enfin, la seule aide qui a été vraiment apportée, c'est la construction de tout ce qui était les machines nécessaires. Sinon,
c'était l'investissement de départ.
C'est ça. Et après, tout ce qui a été la construction de ces machines a été fait par les gérants du lycée et aussi les agriculteurs eux-mêmes. Donc, ils voyaient comment construire eux-mêmes par la suite ses propres machines, comment les réparer en cas de problème.
Et un vrai transfert de compétences.
C'est ça, en fait. C'est qu'après, ils pouvaient se débrouiller sans qu'on soit forcément là, en fait.
Donc, toi, à force d'avoir accumulé ces connaissances, avec ce bagage que tu accumules, t'as envie de faire quel métier? La question à 10
000 dollars. Je sais pas s'il y a un nom pour ce métier-là, vraiment. J'aimerais faire la même chose, en fait, créer des projets et puis après laisser les gens se débrouiller, que ça marche en fait sans que je sois là plus tard. C'est juste apporter mes connaissances et pouvoir ensuite trouver des solutions ensemble et les laisser vivre après tranquillement.
Est-ce que le monde est à nous ?
Le monde est à nous.
Il n'y a personne d'autre qui est qu'à nous, à nous seuls.
Le Monde est à nous, l'émission qui donne la parole aux jeunes tout l'été. Aujourd'hui, on parle de la terre et des hommes. Chaque dimanche, les dernières minutes de l'émission sont consacrées à notre expert. On vous rappelle le concept. Un des deux jeunes de l'émission interviewe un adulte de son choix qui l'inspire ou qui l'admire pour lui demander conseil. Et aujourd'hui, Zoé, tu rencontres Nicolas Salin, chargé de programme à l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors concrètement, Nicolas, votre travail est de superviser des projets de terrain dans de nombreux pays africains, des petites initiatives qui allient protection de la biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique et amélioration des conditions de vie des populations locales. Autant de bonnes raisons pour toi, Zoé, de poser à Nicolas quelques questions.
Oui, j'aurais bien aimé savoir pourquoi tu as décidé de faire ce métier.
Alors juste pour préciser peut-être un peu quel est mon métier, donc je travaille effectivement pour un programme qui s'appelle le programme Petites Initiatives, qui est financé par le Fonds français pour l'environnement mondial et qui vise à appuyer et renforcer la société civile africaine dans des projets de conservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique. Donc quand on parle de protection de l'environnement dans ces milieux-là, on parle aussi évidemment d'agriculture puisqu'il y a beaucoup de liens entre les deux. Et moi finalement, pourquoi j'ai décidé de faire ce métier, principalement je dirais à la base pour voyager, c'est-à-dire aller me confronter à ces contextes-là qui sont très particuliers et puis aller découvrir aussi toutes ces agricultures dans les pays africains qui sont diverses et variées et qui sont très, très inspirantes aussi.
Donc je sais que tu as fait pas mal de projets sur le continent africain. Est-ce que tu pourrais me parler d'un projet qui te tient à cœur ?
Alors oui, je peux te parler d'un projet en particulier qui se déroule donc dans l'ouest du Cameroun, qui est un projet qui est porté par une ONG locale qui s'appelle Kamjou et qui vise à accompagner les apiculteurs au niveau local pour la production d'un miel très particulier qui est donc le miel blanc d'Oku. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une région montagneuse avec des forêts qui sont très riches en biodiversité mais qui sont menacées par notamment l'exploitation agricole et puis les feux de brousse. Et donc l'idée de ce projet, c'est quoi ? c'est de former, d'accompagner les apiculteurs pour pouvoir exploiter durablement le miel qui leur permet en retour de protéger aussi leur forêt. Et donc ça, c'est un aspect très positif parce que à la fois ils peuvent en dégager des revenus supplémentaires et donc mieux vivre de leur du miel, et en même temps protéger de manière plus forte les espaces forestiers qui sont très importants en termes de conservation de la biodiversité.
Et donc vous, à l'UICN, vous les avez soutenus comment, cette association Camjou?
Alors concrètement, ce sont des petits financements de l'ordre de 30-40 000 euros qu'on va leur octroyer pour une durée de 18 à 24 mois et qui vont leur permettre de mettre en œuvre des actions très concrètes de terrain. En gros, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire des belles choses déjà sur le terrain, et donc c'est la philosophie du programme aussi.
Comme quoi par exemple?
Alors ça finance par exemple la formation d'apiculteurs, donc très concrètement des formateurs viennent expliquer aux populations locales qui ne connaissent pas l'apiculteur comment il faut faire de l'apiculture.
Pour qu'ils s'y mettent et qu'ils aient un complément de revenu.
Absolument, ça sert également à construire des ruches, et puis ça sert aussi à faire du reboisement dans les zones où il y a eu trop de déboisement.
Tu as une autre question, Zoé?
Oui, comment gardes-tu la motivation et le plaisir de ton travail, sachant qu'il te confronte à des réalités difficiles et parfois décourageantes, et que les petites initiatives aident seulement des petits groupes de personnes?
Alors ce qu'on observe, c'est que sur le terrain, il y a beaucoup d'actions qui se font, et c'est généralement, quand c'est des petites actions qui sont isolées, effectivement, ça produit pas forcément beaucoup d'impact. Par contre, lorsqu'on arrive à commencer à engager une dynamique collective sur plusieurs projets dans des mêmes zones concentrées, là, on arrive à fédérer des acteurs, fédérer des actions qui ont des résultats concrets, qui sont vraiment beaucoup plus importants sur le terrain. Et donc ça, c'est vraiment une source de motivation, parce que, j'allais dire, plus on est nombreux dans la façon dont on mène des actions sur le terrain, plus ça a des impacts concrets, et donc c'est ce qui est une source de motivation supplémentaire.
Donc en fait, vous misez sur la multiplicité de ces programmes, en fait. L'idée, c'est que ça fasse des petits.
Exactement, que ça puisse faire des petits, et puis que les petits, entre eux, puissent aussi créer des réseaux, des consortiums d'organisations, de communautés locales qui vont s'organiser entre elles pour pouvoir créer des projets, avoir des impacts plus importants sur le terrain.
Et est-ce que vous avez déjà pu constater, depuis que le programme il existe, que ça marche effectivement, c'est-à-dire que ça s'étend, que ça fait vraiment des petits?
Absolument. Aujourd'hui, on arrive à créer donc des réseaux d'organisations, de communautés locales qui s'organisent justement sur le terrain pour pouvoir partager des compétences, bénéficier de produits en commun. Et donc, on arrive à constater très concrètement sur le terrain que effectivement, ça fonctionne. Alors, c'est des processus qui sont un peu longs, qui prennent du temps, mais à force d'accompagnement, de formation, de sensibilisation, eh ben, on arrive à faire des choses.
Donc là, je vais bientôt rentrer en terminale. En STAV.
Et donc c'est science et technologie de l'agronomie et du vivant.
Oui. Et après mon bac, en espérant que je l'ai, j'aimerais bien partir un an à l'étranger, notamment en Amérique du Sud, en Inde et en Afrique. Et j'aimerais bien, pendant cette année-là, participer à des actions, que ce soit bénévolement ou en étant rémunérée, pour pouvoir continuer à voyager. Et je ne sais pas forcément à qui m'adresser, en fait.
Bah, tout d'abord, je trouve que c'est une très bonne démarche, très bonne initiative de vouloir voyager, parce que ça montre aussi ton engagement au sens engagement citoyen, c'est-à-dire que on sent que tu partages des valeurs de solidarité, d'entraide, et donc ça, c'est important de mettre ça concrètement en application. Et puis bah après, moi, les conseils que je peux donner, c'est que il faut, avant de partir, bien planifier ce que tu vas faire, savoir pourquoi tu pars, dans quel objectif, et savoir t'entourer de bons conseils, de bons contacts. Donc je te dirais tout simplement d'être curieuse et d'aller chercher les bonnes informations sur les projets, les sujets qui t'intéressent, pour ensuite essayer de bien planifier un voyage comme ça.
Et ça existe, hein. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'organisations qui existent pour que chacun puisse y trouver son compte?
Oui, bien sûr. Alors moi, je connais beaucoup d'organisations plutôt africaines, donc sur lesquelles on peut éventuellement discuter, et je peux éventuellement te mettre en contact. Mais il y en a partout. Effectivement, il y a des initiatives absolument dans tous les pays sur des domaines agricoles, environnementaux, et donc il faut vraiment être curieux et aller rechercher les bonnes informations.
Et ils sont preneurs de volontaires, même européens?
Oui, bien sûr, oui, ça peut arriver, tout à fait. Ils sont preneurs de toute initiative qui part d'une bonne intention et qui veut faire des choses concrètes sur le terrain avec eux pour les accompagner.
Après mon voyage, j'aimerais bien continuer mes études et poursuivre un peu, ouais, continuer à apprendre. Mais je sais pas forcément quelle voie choisir, quelle formation me conviendrait le mieux. Et je sais pas si tu as quelque chose
proposer. Au niveau des formations, je connais probablement pas toutes les formations, mais juste par rapport à tes ambitions, tes aspirations, moi j'ai deux noms comme ça qui me viennent en tête. Une école qui s'appelle ISTOM, qui est l'école que j'ai faite d'ailleurs, qui est une école d'agrodéveloppement international. Et puis il y a aussi une autre école qui est donc l'Institut des régions chaudes à Montpellier, qui forme des ingénieurs dans les thématiques de l'agriculture, du développement rural et des industries agroalimentaires appliquées dans les pays du Sud. Donc voilà, c'est deux exemples très concrets de formation que tu peux éventuellement essayer de suivre. Et puis ce qui compte aussi également au-delà des formations, je pense que c'est vraiment les stages, c'est-à-dire que les stages vont te permettre d'acquérir des compétences concrètes sur le terrain et de pouvoir te confronter au milieu professionnel. Donc en plus des formations, il faut bien avoir en tête que les stages sont très très importants.
Merci Zoé d'être venue jusqu'à nous et surtout bonne chance à toi dans la suite de tes projets. Merci à vous Nicolas Salin d'avoir partagé votre expertise. Un très très grand merci à Jérémy Bessé qui a réalisé cette émission La tête dans les sons et les pieds bien ancrés sur terre. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions, les photos des jeunes et les liens internet sur notre page Le Monde est à nous sur RFI.fr ainsi que nos réseaux sociaux. On se retrouve dimanche prochain, même heure, pour parler famille, pour réinventer la famille même avec Mégane, 17 ans, élevée par son père et Pierre, 22 ans, qui a avoué son homosexualité à ses parents et veut lui aussi avoir des enfants. D'ici là, n'oubliez pas de célébrer l'été en vous roulant joyeusement dans la terre, le sable, l'herbe, les vagues, comme vous voulez. Salut à tous.
À la semaine prochaine. Géopolitique.